14h-15h, Clap.
Laurie Choleva sur Europe 1.
Vous êtes bien à l'écoute de Clap, l'émission qui vous parle cinéma chaque samedi. Et cette semaine, c'est Cannes qui rythme les sorties. La majorité des films que vous pourrez découvrir au cinéma ont le label du prestigieux Festival de Cannes. Alors, on va en parler dans quelques instants. Aujourd'hui, autour de la table avec moi, Victor Bonnefoy et Franck Vallière. Bonjour à tous les deux.
Bonjour. Bonjour.
Toujours un plaisir de vous revoir.
On est toujours là.
Et je suis très contente que vous soyez là. Alors, avant de parler des films, on va juste regarder le box-office sans surprise. Les Éternels débarquent à la première place du box-office avec 775 000 entrées en une semaine.
Ouais. C'est étonnant, c'est diablement étonnant.
Très beau donc démarrage pour ce nouveau Marvel. En deuxième position, c'est l'inamovible James Bond avec 276 000 tickets vendus. No Time to Die a donc attiré à ce jour 3 613 000 spectateurs en 5 semaines. Voilà, donc ça c'est très bien. Et puis à la troisième place, Venom, donc encore un Marvel, avec 226 000 entrées et des poussières qui devance d'un cheveu quand même Le Loup et le Lion, 226 000 entrées, 54 cette semaine. C'est le film de Gilles Demestre qui a donc séduit depuis un mois presque 1 million de petits et grands spectateurs et je suis très contente pour lui.
Ouais, tout à fait, Gilles Demestre, c'est le genre de réalisateur qui n'est pas forcément très connu par le grand public, mais chacun de ses films dépasse le million d'entrées. Son précédent avait fait 1,4 million. Félicitations à lui.
C'est Mia et le Lion Blanc.
Exactement.
Voilà. Et qui détient la tête du box-office, que des suites, que des trucs qui s'appuient sur des socles de spectateurs déjà, c'est intéressant.
C'est vrai. Les Éternels, James Bond, exact. Bonne réflexion, Franck Vallière.
On n'avait pas dit qu'on parlait de bons films, pourquoi on parle des Éternels là, c'est compliqué.
Bon allez, place au film à découvrir dans les salles. Elle a fait chanter tout Cannes en juillet dernier et elle fait chanter toute la France depuis mercredi au cinéma. Ça a démarré très très fort. C'est Valérie Lemercier avec Aline, le vrai faux biopic sur Céline Dion qui est enfin dans les salles. Les concerts, la famille, les strass, les paillettes, les chansons, mais surtout la double histoire d'amour de Aline Dieu avec sa maman et avec son manager Guy Claude. Valérie Lemercier est époustouflante dans ce rôle qu'elle incarne de ses 5 ans à ses 50 ans.
On a un diamant brut. J'ai presque manqué de pleurer.
C'est la révélation au Québec de piano.
Voici Aline Dieu.
J'ai des grands rêves pour elle, puis je le sais qu'elle va les atteindre.
Faut que tu guérisses.
Je suis pas malade, maman. Je suis tombée en amour. Puis je suis sûre que lui, c'est pareil.
Vous avez pas compris que pour ma petite princesse, c'est un prince qu'il lui faut. Pas un vieux pruneau bronzé qui a 3 fois son poids, 2 fois et demi son âge et qui est 2 fois divorcé.
Il y a beau avoir le monde entier dans la salle, c'est pour lui que je chante, maman.
Oh là 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 là, je pourrais chanter pendant des heures. C'est quoi votre chanson préférée de Céline Dion à tous les deux?
Aucune.
Oh. Ah, moi c'est Pour que tu m'aimes encore. En fait, c'est surtout tout l'album de écrit et composé par Jean-Jacques Goldman. Ouais, dès qu'il y a Jean-Jacques Goldman à l'intérieur, je suis ravi.
J'ai compris, merci.
Ah, on va faire une soirée karaoké, Laurie, dites donc.
Alors, Victor Bonnefoy, vous en avez pensé quoi?
Eh ben, j'ai plutôt aimé Aline, qui est un film qui, mine de rien, a grandi en moi parce que je l'ai vu il y a quelques semaines et j'y ai pas mal repensé. Cette histoire d'amour, cette manière que Valérie Lemercier a de prendre à bras le corps l'histoire de Céline Dion, mais d'y mettre un peu d'elle à l'intérieur, quelque chose d'absolument passionnant et de vraiment touchant. C'est-à-dire, le film nous amène aux larmes quelquefois. Alors, moi, je reste en dehors sur quelques aspects, notamment je trouve que les scènes de concert manquent parfois d'ampleur en termes de mise en scène, sachant qu'on a eu des biopics comme Bohemian Rhapsody, que j'aime moyennement, mais Bohemian Rhapsody, ou même surtout Rocketman d'Elton John, où il y avait de l'ampleur sur les scènes musicales.
Là, surtout qu'elle a fait de très grosses scènes.
Exactement, et là je trouve pas, ça, des fois un peu plan-plan, quoi, c'est toujours filmé de loin.
C'est pas le même budget non plus, même si le film a coûté 23 millions d'euros.
Et je crois que c'était pas son sujet. Je crois que vraiment, elle s'est concentrée sur l'histoire d'amour.
Mais après, c'est pas tant une question de budget que de décider qu'au lieu de laisser la caméra en plan fixe, on peut la faire bouger un petit peu. Ça coûte pas plus cher, ça coûte juste des bras.
Non, mais ce qui serait vraiment intéressant, parce que moi qui ne nourris aucune passion pour Céline Dion.
On a remarqué.
Non, mais ni aucune aversion, soyons sérieux. Son parcours est extraordinaire. Ce qui serait véritablement intéressant, c'est de savoir ce qu'elle en pense. Parce que le film agit comme un miroir déformant. C'est-à-dire que c'est un conte de fées, mais ce conte de fées, Céline Dion, elle le vit réellement. Donc, du coup, c'est comme quand on se regarde dans une glace, on voit son reflet, mais ce n'est pas soi. Pour moi, il y a beaucoup d'ironie partout qui se love, mais pas de cynisme. Et du coup, je serais très curieux de savoir ce qu'elle en a pensé. Parce que c'est un conte de fées.
Je crois que Valérie Lemercier, d'ailleurs, a très envie aussi que Céline Dion voit le biopic.
Oui, tout à fait. Mais d'ailleurs, je pense qu'on pourrait avoir une pensée pour Céline Dion. Et là, je suis totalement premier degré, qui vit une maladie pas simple en ce moment, qui paraît-il est alitée et a beaucoup de mal à se déplacer. Que le film sorte dans ce contexte-là, ça permet de rappeler que, mine de rien, et c'est montré dans le film, ce genre de star-là, bah, ça demande des efforts physiques qui sont d'une difficulté absolue et on en paye les conséquences parfois beaucoup plus jeunes. Et Céline Dion a l'air d'être en train de faire face à ce genre de choses-là. Et personnellement, moi qui l'aime beaucoup en tant qu'artiste, je lui envoie beaucoup d'amour.
Et on espère que cette personnalité hors sol n'est pas sous fentanyl comme Prince ou Michael Jackson.
Oh là là.
Et je crois que le public aussi lui envoie beaucoup d'amour.
Très étonnamment, j'ai trouvé ça très touchant, amusant, drôle.
C'était bouleversant, je trouvais que c'était émouvant et en même temps c'était très vrai.
Quand on m'a dit un film sur Céline Dion avec Valérie Lemercier, j'ai pensé à une blague, mais en fait c'est vraiment un merveilleux biopic, même si c'est librement inspiré.
Et voilà, il a tout dit. Merveilleux biopic, librement inspiré. Autre sortie dans un autre registre, Goodman de Marie Castille, mention char, un film coup de poing sur la transparentalité. Noémie Merlant incarne Benjamin, un homme né dans un corps de femme qui veut fonder une famille avec sa compagne Aude, jouée par Soko, qui ne peut pas avoir d'enfant. Et donc il décide, Benjamin, de porter lui-même le bébé puisqu'il n'a pas été au bout de sa transition et qu'il n'a pas encore subi d'opération.
Porter un enfant, c'est considéré de manière universelle comme étant le symbole de la féminité.
Si ça marche, comment tu vas vivre ça ?
Je sais pas où on va, moi non plus. Je sais pas comment les gens vont réagir. Je sais pas comment moi je vais réagir.
Là, dans la loi, là, moi, je suis rien.
On s'en fout de la loi. Tu seras sa mère. Tu es sa mère.
T'as choisi d'être un homme, Ben. Un homme !
Mais j'ai pas choisi. Quand est-ce que tu comprendras que c'est pas un choix, putain ?
Franck Vallière.
Écoutez, grand film populaire sur une ultra niche, on va dire, pour simplifier. C'est très important de faire ce genre de film parce que Marie Castille, mention char, n'est pas Jean-Paul Sivirac. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de l'habilité autoriste, elle a l'habilité de vulgariser un propos, de s'attacher à des faits divers, car c'est basé sur une histoire vraie. Et en l'occurrence, je trouve que c'est plutôt intéressant parce que elle dépeint ce qu'est une relation amoureuse. Et au final, on oublie presque que c'est une femme qui joue un homme et toute cette histoire de transparentité devient juste une histoire d'amour.
Universelle.
Alors, certes, un peu jouée uniquement par des gens dont c'est la hype d'être, disons... gay friendly, Noémie Merlant qui est de plus en plus incroyable. Noémie Merlant, j'adore sa discrétion et par ailleurs à chaque fois qu'elle est à l'écran dans le Audiard la semaine dernière, elle est très très bien. Et,
alors il y a eu quand même la polémique que le rôle soit donné à une femme au lieu d'être donné à un acteur trans, mais c'est vrai que quand on voit sa prestation, on oublie tout ça.
C'est-à-dire qu'à un moment, il faut se décider aussi à employer la meilleure personne pour un rôle et pas simplement une histoire de quota non plus tout le temps. Voilà. Donc ça reste très populaire, c'est très vibrant, on est avec eux au sens masculin et féminin au sens large, on est avec eux et elles et on est avec tous ces gens-là et c'est un grand film populaire qui a le mérite de vulgariser quelque chose qui existe et qu'on ne montre pas assez et surtout de manière populaire.
Et une souffrance aussi. On va écouter ce que vous en avez pensé.
Super aimé, Noémie Merlant. Déjà, je l'aime beaucoup en temps normal, mais alors là, chapeau. Hein.
J'ai été assez émue, assez troublée, et on ne peut ressortir que de ce film en se posant un milliard de questions auxquelles on n'est peut-être pas obligé d'amener forcément de réponse immédiatement, mais voilà, moi, ça m'ouvre le cœur, ça m'ouvre l'esprit, c'est ça bon. Me laisse un peu en suspens.
Et puis rapidement, on va aussi parler du nouveau film de Nanni Moretti, Trépiani, qui était en compétition à Cannes cette année. L'adaptation d'une histoire mélancolique qui se passe dans un immeuble sur plusieurs années, sur plusieurs étages, sur plusieurs familles. C'est une chronique de vie.
Salut papa.
Salut ma puce. Maman va pas tarder, on se voit tout à l'heure. Merci Renato.
Je t'en prie.
Quand je suis comme ça, toute seule, j'ai peur de tout.
Lucia.
Charlotte, salut, qu'est-ce que tu fais là ?
Je suis venue pour voir mon grand-père.
L'autre jour, chez moi, il y avait un oiseau à l'intérieur. J'avais l'impression qu'il voulait quelque chose.
Victor Bonnefoy.
J'attendais beaucoup le nouveau Nanni Moretti et c'est peu dire que c'est un film laborieux. C'est un film laborieux en termes de narration parce qu'il veut raconter trois histoires qui ont du mal à s'entremêler. C'est un film laborieux parce qu'il veut diriger des comédiens de différentes générations qui ont du mal à cohabiter ensemble. C'est un film qui pourtant a une efficacité dès sa scène d'intro où une voiture va littéralement se crasher dans un immeuble et tuer quelqu'un et on se dit oh, on part dans un film qui va sûrement nous plaquer au mur et malheureusement on reste un petit peu à la porte à plein d'instants avec
toujours l'humanisme de Nanni Moretti.
Tout à fait, ces grands questionnements sur la place de l'homme dans la société italienne, sur la place de la femme dans la société italienne, sur comment est-ce qu'on peut vivre ensemble. Mais malheureusement, des fois, il faut réussir, quand on vit ensemble, à conclure des histoires. Et Nanni Moretti a bien du mal à conclure ces histoires qui partaient pourtant si bien.
Et votre avis alors ?
C'est très prenant, c'est assez particulier puisque c'est trois histoires qui s'entrechoquent. Au final, c'est vraiment très émouvant.
Le film est long et j'ai l'impression qu'il n'est pas achevé non plus. Toutes les histoires se terminent un peu rapidement.
J'ai bien aimé, hein, c'est très bien joué, très bien interprété. Ça montre un peu l'individualité de toute la société actuelle.
Voilà, des avis mitigés. Et puis bien sûr, j'en parlais en début d'émission, Cry Macho, le nouveau film de Clint Eastwood. C'est un film européen, Victor, très rapidement.
Ah, très rapidement, c'est un film à voir parce que il n'y a pas beaucoup de films qui sont réalisés par des hommes de 91 ans, mine de rien. Et c'est un film qui a tout, les qualités, les défauts d'un film d'une personne de 91 ans, mais c'est un film qui reste pourtant très important dans la carrière d'Eastwood.
Alors sachez également que le livre de Guillaume Évin, Clint Eastwood, Le Dernier des Géants, est disponible et revient sur la carrière étonnante de Clint. Merci à tous les deux, Franck Vallière, Victor Bonnefoy.
Bon,
on se retrouve. Bon week-end.
Très
on
bon week-end à vous.
Mais oui, on se retrouve la semaine prochaine. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec William Lémergie. Très belle journée à vous à l'écoute d'Europe 1. Merci beaucoup. À la semaine prochaine.